Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
Vous écoutez
Geneviève Peterson,
Cube Radio.
Et on est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête, qui a fait, je dois le dire, un travail formidable. 30 mois de bataille devant la Commission d'accès à l'information pour révéler combien ont coûté des travaux d'amélioration au CUSUM. Jean-Louis, salut.
Bonjour Geneviève.
Écoute, ce sont quand même des coûts faramineux. Là, commençons par ça.
Oui. Il y a les deux plus gros hôpitaux du Québec, hein, c'est bon de le rappeler, sont gérés en PPP, partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'on a confié des mandats de 25-30 ans à des entreprises privées, SNC-Lavalin, dans le cas du CUSUM, pour qu'ils construisent pour nous l'hôpital, puis après ça, ben, qu'ils gèrent. Donc, quand il y a une prise de courant à changer, quand il y a une poignée de porte à changer, quand il y a une salle à construire, c'est eux qui le font, puis ils nous envoient la facture éventuellement. Les PPP, c'était présenté par l'ancienne présidente du Conseil du Trésor, Monique Jérôme Forget, du temps des libéraux, comme la meilleure invention depuis le pain tranché. Puis quelques années plus tard, on peut avoir des réserves, on peut avoir des doutes quand on constate comment la façon dont on se fait gérer, mais ce qui est le plus, je te dirais, décevant dans les PPP, c'est le manque de transparence. Alors, tu as raison de dire que, en fait, moi, je vais le dire, c'est une excellente nouvelle, le combat qu'on a réussi à gagner contre
CUSUM. Bien sûr, mais oui.
Un hôpital qui dépense notre argent, les fonds publics, mais qui refusait de nous dire comment il le dépensait et combien ça coûtait. Dans n'importe quel établissement de santé au Québec, tu es capable d'avoir, nous les journalistes, mais n'importe quel citoyen aussi éventuellement pourrait le savoir, on a commandé tant d'équipements, on a fait rénover telle salle, combien de fonds publics ça a coûté. Le CUSUM ne voulait pas nous le dire. Mmh. On s'est adressé à eux, on leur a fait une demande d'accès en octobre 2018. Et là, ils ont prétexté que, nous autres, on ne peut pas vous le donner, c'est des renseignements confidentiels, notre partenaire privé ne veut pas. Et à partir d'octobre 2018, on a fait appel, mais ça a pris, donc, tu l'as dit d'entrée de jeu, 30 mois de démarche. Mmh. Que finalement, SNC-Lavalin crache le morceau, finissent par, avec SNC-Lavalin, s'entendre, puis dire, OK, on va leur fournir l'information. Puis, quand on constate ce qu'on a reçu comme information, on s'est rendu compte que ça valait la peine de le faire pendant 30
ans. Bien, c'est ça. Tu disais tantôt, tu faisais référence à des poignées de porte, tu faisais référence à des prises électriques, et tu nous disais, le CUSUM refusait de nous donner le montant, prétextant que la firme avec laquelle elle faisait affaire, voulait pas transmettre cette information-là. Il y a deux affaires là-dedans. Un, si j'avais été à la place du CUSUM, peut-être que ça m'aurait pas tenté, moi non plus, de partager les coûts, parce que quand on les connaît, ces coûts-là, Jean-Louis, ils sont très élevés. Là, il y avait quelque chose comme des poignées de porte à 8 000 $, des prises électriques à 1 500 $.
Plus que ça, pour une prise de 200 000 volts, une prise qui est semblable à ce que tu as chez toi pour ta sécheuse ou brancher le four dans la cuisine. Bon, ça, c'est 6 000 $. À peu près 3 000 par prise. Mm-hmm. Dans un autre hôpital, selon nos sources qui sont très, très bien informées des coûts, là, on parle de 800 $. Donc, de 800 et ça passe à 3 000 parce que c'est un hôpital qui est géré en PPP. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le partenaire privé, donc le SNC-Lavalin, ça prend un 15-20% de commission. Après ça, ben, eux engagent un sous-traitant pour le faire. Puis c'est tous les coûts auxquels on n'avait pas nécessairement pensé en concevant ces projets-là. Puis, en tout cas, si ça devait revenir moins cher au total, là, aujourd'hui, on a la preuve qu'il y a bien des travaux qui, finalement, finissent par coûter plus cher.
Oui, puis le fait que SNC-Lavalin se soit caché derrière ce paravent-là, le CUSUM, on a un peu joué au chat et à la souris. Là, SNC-Lavalin, qui ne voulait pas donner les chiffres, SNC donne une version pas tout à fait similaire, là, réfute ça, en fait.
Oui, bien, eux, là, on se lance la balle. Hein, ouais. Non, nous, on aurait pu vous donner les chiffres. Il semble qu'il y a eu un manque de communication avec l'hôpital. Moi, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, Geneviève. Ça, c'est fondamental. Là. C'est sûr que 30 mois de combat, puis je vais l'appeler ainsi, là, au nom de l'intérêt public, au nom de l'intérêt de nos auditeurs, de nos lecteurs, c'est un investissement de temps et d'argent qui est considérable. Puis, quand je regarde ça, quand j'y pense, là, je me considère chanceux de travailler pour une grande organisation médiatique comme ça, qui a les reins solides pour le faire. Parce qu'on a d'excellents avocats, par exemple, au contentieux, qui nous appuient dans nos démarches. Puis on le sait, aller en appel, c'est des heures de préparation de dossiers. Puis là, ben, éventuellement, on doit faire des plaidoiries. Puis, alors, c'est pas à la portée de tout le monde. Et je pense qu'il faut le souligner, là, si la loi était faite de façon à ce que les organismes publics soient contraints d'entrée de jeu de nous donner l'information, ben, on n'aurait pas besoin de passer par ces démarches-là. Puis on se le cachera pas, là, si on était une organisation médiatique plus petite, là, un petit hebdo en région, mais malheureusement, ces organisations-là ne vont pas en appel quand ils se font refuser de l'information d'intérêt public parce qu'ils n'ont pas les avocats, ils n'ont pas le portefeuille assez bien garni pour le faire.
Est-ce que c'est une pratique qui est davantage employée par les grands médias, les grands groupes médias, d'avoir recours aux tribunaux pour avoir accès à de l'information depuis quelques années?
Je te dirais qu'on est plus souvent tenté de le faire.
Pourquoi?
Mais encore là, il faut choisir nos combats parce qu'on ne pourrait pas tout contester. La plupart des demandes d'accès à l'information qu'on fait reçoivent une réponse. Mais il y a quand même une quantité non négligeable qu'on se fait dire non. Puis il y en a qu'on laisse passer. Puis il y en a qu'on choisit. C'est un combat qu'on va mener. Puis il y a même un dossier, Geneviève, on est en cours. On est allé jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême nous a entendu l'automne passé. On attend une décision. Ça fait à peu près 6 mois. On sait que ça peut être plus long. Mais c'est un dossier aussi comme ça qui traîne depuis 3-4 ans. Puis, en tout cas, on va les mener, ces batailles-là. Je pense que c'est important de le dire pour les gouvernements ou des organismes publics qui seraient tentés de nous en cacher, là, de l'information. Nous, on travaille pour les contribuables, on travaille pour l'intérêt public. Puis quand vous dépensez 3 puis 4 fois le prix pour construire une prise électrique, ben on va tout faire pour être capable de le montrer publiquement, même si vous refusez.
Écoute, ça n'a aucun sens, des factures cachées pendant 3 ans. On parle de remplacement de porte pour 33 000 $, tu sais, alors qu'on gratte nos scènes, la pandémie nous a plongé dans une récession. C'est sûr que c'est révoltant pour le public de savoir que notre argent est parfois bien mal géré. Un des principaux acteurs du scandale du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM, là, a été contraint par ailleurs de remettre 6 millions de $ qu'il a reçu en pot de vin.
Ben, c'était Yanaï Elbaz, là,
oui.
Qui était on le sait, lui, il avait été identifié dès le début comme un des participants à ce stratagème-là, de par le rôle qu'il avait. Puis c'est pas le seul, bon, Pierre Duhaime, l'ancien patron de Saint-Chavalin, avait plaidé coupable aussi. Puis bon, éventuellement, ça a été M. Elbaz avait de l'argent, donc il a été rapatrié, notamment en Suisse, outre-mer. Bon, c'est une victoire pour les contribuables québécois en quelque sorte. C'est un pot de vin. C'est de l'argent qui avait été versé de façon illégitime. Il faut bien se rappeler aussi de SNC-Lavalin, donc qui gère un des plus gros hôpitaux au Québec. C'est une entreprise qui n'a pas une feuille de route sans tâche, là, bien au contraire. Tu parles de Yanaï Elbaz, là, mais SNC-Lavalin, ils ont déjà été bannis par la Banque mondiale pendant 10 ans pour des irrégularités dans des projets au Bangladesh, au Cambodge, en Asie. C'est eux qui étaient derrière le versement du fameux pot de vin de 22 millions au CUSUM. Alors, c'est une entreprise qui a beaucoup de questions éthiques qui sont soulevées à chaque fois qu'on en parle, même si on nous dit qu'on a fait le ménage, que ce n'est plus l'ancien.
Permets-moi d'en douter.
On a le droit de se poser des questions.
Ouais, m'a le croire quand m'a le voir, comme dirait ma mère.
Exactement ça.
OK. Je voulais qu'on revienne sur ton texte dans fin de semaine, un test de patience de l'UPAC.
Ouais, je fondais beaucoup d'espoir la semaine passée parce que jeudi, Frédéric Gaudreau, qui est le patron de l'UPAC, se présentait donc devant les parlementaires pour, il fait ça une fois par année, de justifier son budget annuel puis répondre aux questions, hein, parce que l'Assemblée nationale accorde 30 millions à peu près par année à l'UPAC, donc c'est bien normal qu'une fois par année, il rende des comptes. Et je me disais, on va avoir des nouvelles, des enquêtes, à l'enquête mâchurée, hein, sur le Parti libéral et les allégations de financement illégal, ben on a été déçus. Et essentiellement, Frédéric Gaudreau, le commissaire, nous a servi à peu près les mêmes réponses qu'il nous sert depuis plus de 2 ans qu'il est en poste. Il nous a dit, soyez patients. C'est des enquêtes qui sont longues, qui sont complexes. On a des exigences de confidentialité. Mais c'est un peu décourageant. Puis même... j'ai trouvé ça drôle parce que quand Alexandre Leduc de Québec Saint-Dal lui a demandé, il a dit, ma fille, elle a 3 ans. Est-ce que tu pensais que quand elle va rentrer au secondaire, donc peut-être dans 10 ans, on va en avoir des nouvelles de ma chérie? Mm-hmm. Frédéric Gaudreau n'était même pas capable de lui assurer.
Ben voyons donc, mais on ne fondait pas beaucoup d'espoir. Il me semble que la dernière fois qu'on s'était parlé de lui, tu disais que c'était l'homme de la situation pour faire changer les affaires. J'ai-tu une distorsion de mémoire?
Ben, écoute, Frédéric Gaudreau, tout le monde n'en dit que du bien. C'est un gestionnaire, je pense, qui est aimé de ses troupes. C'est un patron de l'UPAC qui a plein de qualités. Mais la question peut-être qu'il faut se poser, je pense, c'est est-ce que c'est réaliste de mener des enquêtes sur la corruption avec le fardeau de preuves qu'on impose présentement? Puis tu sais, on pourrait en débattre pendant une heure, mais faire une preuve hors de tout doute raisonnable qu'une entente de corruption en deux parties, c'est extrêmement difficile. Puis on le constate, tu sais, Machuré, c'est une enquête qui a débuté en 2014. Ça fait 7 ans. Et il y en a une autre enquête, là, dans le cas de Blainville, j'écrivais là-dessus il y a quelques semaines, là aussi, là, démarrant en 2014-2015. Puis là, on venait de présenter une requête à la Cour parce qu'on venait de découvrir qu'il y avait de l'argent qui était produit de la criminalité, semble-t-il, 6-7 ans plus tard. Puis, est-ce que c'est normal qu'on fasse traîner ça pendant 6-7 ans? Parce que même Christine Saint-Pierre, la députée libérale, ouais, l'a dit la semaine passée, pendant ce temps-là, il y a des réputations qui sont entachées, des carrières qui sont en jeu. Il faut comprendre, il faut accepter, on dirait, comme société, que une enquête pour... C'est un peu plate à dire, mais une enquête pour un crime violent comme un meurtre, souvent, se déroule et se résout beaucoup plus rapidement. Parce qu'on a des éléments de preuve, on a, il y a une arme, il y a des projections de sang, il y a une scène de crime, c'est plus concret, c'est plus tangible, c'est plus facile à présenter devant la justice. Puis, ben, au niveau de la corruption, il faut quand même accepter que c'est long, puis que le plus souvent, ça n'aboutit pas.
Alors, c'est chronique. Oui, mais ça nous aide pas dans le cynisme ambiant.
Non, ça nous aide pas, surtout que, comme Frédéric Gaudreau le disait aux parlementaires la semaine dernière, ce qu'on constate de plus en plus, là, c'est encore plus discret qu'avant, la corruption.
Ils ont raffiné leur technique.
Oui. On ne risque pas, comme on le voyait sur les images de la commission Charbonneau, là, de revoir de sitôt des mafieux qui s'échangent ou qui comptent des liasses d'argent comptable de la ristourne des entrepreneurs captés sur caméra cachée. C'est des ententes, là. C'est ça. C'est souvent qu'il laisse peu de traces, pas de preuves courriel dans des devis, des fois.
Mais c'est ça. Ils ont appris. T'sais, ils ont appris, ils ont raffiné leur façon de faire, malheureusement. Et bon, c'est clair que ça prend du temps à faire la preuve de ça. Jean-Louis Fortin, merci, qui est directeur du bureau d'enquête. On va continuer à lire votre travail dans le journal, évidemment.